Bien, bonsoir. C'est bon, il marche, d'accord. Très bien, je vous remercie aussi de m'accueillir ici et j'ai eu l'occasion de voir un peu le programme sur l'histoire des sciences où j'ai reconnu un certain nombre de personnes qui ont joué un rôle assez important de ma formation personnelle aussi. Donc ça me fait plaisir d'être ici pour une conférence qui, comme le titre l'indiquait, va porter sur la science et la littérature, plutôt même la science et la poésie plus précisément, et sur cet antagonisme supposé évident entre poésie et science. J'avais indiqué dans le résumé que j'ai transmis et qui accompagnait ce titre un prolongement que je n'aborderai pas sur une perspective plus générale sur les formats littéraires de transmission scientifique pour m'en tenir à cette question de la confrontation ou de confrontation de concepts ou de formes entre science grecque et poésie. On pourrait partir des données objectives de l'histoire et conclure en quelques instants cette communication en disant que cet antagonisme intellectuel, mental, eh bien, il est simplement dans l'esprit, puisque dans les faits, il existe de la poésie scientifique, et il en a toujours existé, non seulement en Grèce, non seulement à Rome, mais dans toute la tradition de la littérature moderne, depuis le XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle au moins, on s'y risque peut-être un peu moins maintenant, c'est un courant et un genre littéraire attesté de poésie scientifique et didactique, et il existe de nombreuses une tradition donc importante, des études, des colloques. Il y en a un qui s'est tenu encore cet été sur la poésie scientifique depuis Lucrèce. Mais les faits sont des preuves d'un certain type. Ces faits-là, ces données, ces textes, d'un certain type qui parfois ne suffit pas. Ne suffit pas à convaincre et parfois ne suffit pas à persuader. Donc on ne peut s'arrêter simplement au constat qu'il existe une littérature poétique. D'une certaine façon, ce qui se joue ici, c'est la légitimité d'une littérature, d'une poésie qui s'occuperait de science ou d'une science qui se dirait à travers la poésie. Alors, je ne vais pas chercher à négocier une définition avantageuse pour mon propos du terme de science ou du terme de poésie en le déroutant vers des domaines où il est plus facile de montrer qu'il y a une complicité, une connivence possible et profonde. Je traiterai de la science telle que vous l'entendez et de la poésie telle que vous l'entendez ou comme moi. Il est parfois un peu... ce n'est pas toujours bon d'élucider trop loin des concepts qui sont partagés ou qui sont supposés partagés au moins dans les grandes lignes. Et en même temps, ça nous entraînerait vers un sujet un peu différent. Donc je partirai de cet acquis, de cette connivence entre vous et moi, de ce que c'est que la science et de ce que c'est que la poésie, pour voir ce qu'il en est à partir évidemment du contexte grec. Alors, je donnerai trois exemples néanmoins, enfin quelques exemples, peut-être pas trois parce que je n'aurai pas le temps, mais quelques exemples de textes de littérature, de poésie scientifique en ouverture, de manière un petit peu apéritive. Encore une fois, il ne s'agit pas d'arguments, il s'agit simplement de textes. J'espère que les arguments viendront après pour exposer comment il est non seulement réel, mais encore possible d'écrire de la poésie scientifique, ce possible étant presque plus en cause et plus difficile à confirmer et à argumenter que ce réel. Au XIXe siècle, il y a en particulier une profusion de textes qui sont des poèmes scientifiques et qui s'inspirent, qui se revendiquent ouvertement, soit des Géorgiques de Virgile, soit plus largement, enfin plus fréquemment, du De Naturae Rum de Lucrèce, qui apparaît comme le modèle du genre de poèmes scientifiques accomplis, livrant tout à la fois un plaisir esthétique pour ceux qui savent encore lire le texte latin dans le texte, et aussi une satisfaction intellectuelle d'avoir accès à des données qui ne sont pas seulement philosophiques, mais qui sont très largement scientifiques au sens naturaliste, si vous voulez. Alors il y a par exemple, je ne vous citerai pas la Panhypocrusiade de Népomucène Le Mercier, bien que son nom seul justifie qu'on s'y attache, qui contient un dialogue entre Copernic et la Terre, qui est une exposition de la théorie copernicienne en alexandrin. Peut-être pas non plus... bien que cela soit attachant, le poème en huit chants intitulé « L'imagination » de l'abbé de Lille, qui était aussi abbé que vous ou moi. Mais alors peut-être un extrait d'un poème de Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert, intitulé « Chant de la matière » et qui fait parler la vapeur personnifiée qui vante ses mérites et ensuite d'autres entités technoscientifiques qui prennent la parole et, quelques vers, « Écoutez, c'est le chloroforme qui dit « J'ai tué la douleur ». Pendant que l'instrument difforme taille les chairs avec lenteur, je prends l'esprit et je l'enlève, loin de tout contact douloureux, et je l'emporte comme un rêve dans le pays des songes bleus. » Alors, en s'y attachant, tout n'est pas gratuit, bien évidemment, là-dedans. C'est un petit peu plus long que de dire quel est l'effet du chloroforme, mais voilà comment on peut présenter poético-scientifiquement le chloroforme. Deuxième exemple, un exemple alors anglais, emprunté à un savant anglais de l'université de Pennsylvanie qui enseigne, enfin je crois qu'il est mort maintenant, qui enseignait la génétique médicale à la School of Veterinary Medicine et qui, au Congrès international sur la santé, un symposium en 1981, présenta une communication intégralement en vers. Et voici un extrait, évidemment délicat à traduire, donc je vais essayer de le lire en anglais, sur la structure génétique. C'est très bref. Well, we thought that we finally had figured it out. We knew what the structure of genes was about. But there's two kinds of carryots. There's E and there's pro. And what's true for E. coli just isn't so. When it comes to the genes of a mouse or a man, Mother Nature, it seems, has used more than one plan. Voilà donc les caryotes qui sont soit eucaryotes, soit prokaryotes, et l'homme n'est pas comme Escherichia coli qui est dans le sixième vers. Il n'y a donc pas de question, il y a une réponse. Oui, la poésie scientifique existe réellement. Il n'y a pas d'incompatibilité ontologique entre science, scientificité et poésie, poéticité si l'on veut. Leur collaboration est une réalité historique. On peut écrire en latin, en volapük, en espéranto, on peut aussi écrire en sonnet, en alexandrin, en octosyllabe, quel que soit apparemment le sujet. Je pense qu'un savant anglais préférerait écrire un livre sur ou un traité sur la reproduction des abeilles ou sur les fossiles insulaires en poésie anglaise plutôt qu'en albanais, hein, même avec quelques années de formation, je crois qu'il préférerait encore cette voie-là et ça ne serait pas impossible. Oui, mais on a du mal à se retenir de penser qu'il s'agit d'un attelage un peu dépareillé, que les résultats parfois sont un peu dérisoires. Les exemples que je vous ai proposés ne sont pas époustouflants de beauté. Et il y a cette idée qui est dure, bien installée, que malgré tout, il y a au fond une incompatibilité. Au nom de quoi ? Au nom d'une certaine idée de la science, au nom d'une certaine idée de la poésie. Et c'est cela qu'il faut essayer de d'éreinter ou en tout cas d'esquinter un petit peu. Il y a une croyance sociale diffuse dans une certaine réalité de la science qui fait obstacle à ce qu'on accepte plus simplement l'idée qu'on puisse écrire un poème scientifique. Et on pense que poète ou savant, il faut choisir. Alors, essayons de ne pas choisir et prenons les faits, ces textes grecs cette fois, un petit peu dans leur contexte, dans leur ambiance culturelle, pour voir comment ces deux catégories, dont il faut quand même bien prendre conscience, qu'ils sont totalement hétérogènes, hein, entre une forme de savoir et une façon de parler. Pourquoi une forme de savoir serait-elle dans un rapport d'incompatibilité ? Ils ne sont pas du tout du même niveau, forme de savoir et façon de parler. Alors, la réponse à cette question d'une poésie scientifique acceptable, non seulement réelle, mais acceptable pour l'esprit, je pense, et je le dis tout de suite, qu'elle est, à mon avis, moins dans les moyens de celui qui parle que dans l'esprit de celui qui entend. C'est-à-dire que ça tient moins à des conditions techniques d'expression que dans des dispositions mentales de l'écoute. Autrement dit, le travail, c'est vous qui allez le faire. Je n'ai pas à chercher à vous persuader de la connivence non seulement réelle mais possible entre science et poésie, mais j'essaierai de voir à quoi tient psychologiquement ou ne tient pas, enfin à quoi tient positivement ou négativement psychologiquement cette possibilité. Alors je vais le faire à la grecque, en commençant peut-être par un mythe, puisque avec les Grecs, il semble convenable de partir du mythe. C'est eux qui nous apprennent en tout cas qu'il y a beaucoup de choses à trouver à l'issue de ce départ, où que l'on aille. Alors, un mythe qui s'impose rapidement concernant cette articulation de la science et de la poésie, c'est la conception courante, grecque et encore très, très contemporaine, qui voit dans la langue poétique la langue primitive, la langue maternelle de l'homme et la première forme littéraire, tout domaine confondu, y compris donc scientifique. Autrement dit, il y aurait là une sorte de surgissement poétique primaire qui concernerait toutes les réalisations de l'homme intellectuel, mental, etc., et donc incluant évidemment les productions scientifiques. Alors, si je dis mythe, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas forcément que c'est totalement vain, et beaucoup sont encore très prêts à croire qu'il y a coïncidence entre cette émergence littéraire et cette émergence poétique. Alors en fait, il y a deux idées qui sont conjointes, deux faits ou deux idées, plutôt des idées. D'une part, c'est la persistance historique exclusive sous forme textuelle graphique de la poésie orale archaïque. Autrement dit, on a que du poétique à se mettre sous la dent en termes de littérature archaïque pour le monde grec. C'est la littérature qui a, en quelque sorte, survécu, qui s'est réincarnée graphiquement lorsque s'est développée la pratique graphique de mettre par écrit et non plus de confier à l'oral, à la bouche, ce que l'on avait à dire. Ça n'empêche pas qu'on continue de le faire, qu'on continue de parler, évidemment, mais il y a là une inscription dans le littéraire graphique qui, dans l'histoire hein, de cette littérature, n'a concerné que la poésie. Le deuxième élément, c'est la conception, là c'est une conception culturelle d'une sorte d'une transcendance du logos et de la connaissance. Une transcendance, c'est-à-dire que le logos et la connaissance ne seraient pas comme ça gisants dans les individus, mais seraient, les dépasseraient et seraient, obligeraient à une sorte de dynamique mettant en contact avec une instance plus vaste, plus large, que ce soit le logos, que ce soit la divinité, que ce soit la vérité, etc. Donc ces deux éléments concourent à constituer cette représentation d'une parole originelle poétique. Et le caractère poétique de toute la production littéraire archaïque est apparemment un fait, mais c'est aussi une idée, et c'est comme idée que cela produit des représentations qui, elles, s'écartent précisément des faits et entraînent à concevoir les rapports entre poésie et science d'une certaine façon. Le texte même écrit, c'est-à-dire même au 8e siècle, quand on commence à les mettre par écrit, est à l'époque calibré sur la voix, c'est-à-dire que le repère, c'est le repère vocal, hein, et une voix, pas simplement la voix, mais une voix plaisante, une voix musicale, une voix rythmée, en un mot, poétique. En dehors de tout ce qui est d'utilisation pratique, pour lequel il y a moins de témoignages littéraires, c'est plutôt d'ordre épigraphique, ce qui concerne des activités très, très fonctionnelles, eh bien, ce qui est considéré comme ayant un statut de littérarité, est calibré sur la voix. C'est donc dans ce rythme, dans le rythme d'une voix musicale qui va être prioritairement l'hexamètre dactylique, c'est-à-dire un rythme constitué de 6 unités de pieds d'une longue et de 2 brèves, hein, d'une blanche et de 2 noires, donc un rythme très... alors avec quantité d'adaptation, mais peu importe. Donc il y a là une formule métrique, une formule rythmique qui correspond à ce qui se met par écrit quand c'est du littéraire. Et là, littéraire ou poétique, c'est la même chose. Alors, c'est dans ce rythme qu'on va écrire tout ce qu'il y a à écrire, aussi bien des poèmes épiques, narratifs, que des poèmes descriptifs, comme par exemple certains passages d'Hésiode, ou des poèmes considérés comme véritablement scientifiques, comme un peu plus tard, le poème d'Aratos sur les phénomènes, dont je reparlerai. C'est donc voilà, un format qui correspond à un format choisi, sélectionné en quelque sorte culturellement comme le format de l'inscription graphique de ce qui mérite d'être dit et écrit. Alors, cette représentation d'une parole d'abord poétique, hein, ou en tout cas passant la barrière de l'oral à l'écrit en privilégiant le poétique, c'est une idée qui a l'air tellement simple, tellement courante, qu'on la trouverait presque neutre, hein, dépouillée de toute forme d'idéologie. Hein. C'est une idée courante de l'histoire des mentalités. Dans la perspective d'un auteur comme Havelock, il fallait que, évidemment, dans ces conditions d'émergence de la langue poétique, que la première philosophie ait été orale et qu'elle ait été, donc, elle aussi, poétique. Dans une société sans écriture, selon cette conception commune, ce n'est que par la forme poétique que l'héritage culturel, hein, se dit et se transmet. Et donc, la philosophie, et par philosophie, il faut entendre régulièrement, même si j'emploie le terme de philosophie, il faut entendre une réflexion sur la nature, sur tout ce qui n'est pas forcément immédiatement perceptible, mais concevable. Ce sont essentiellement des naturalistes, hein, et le terme de naturaliste conviendrait davantage que celui de philosophe ou de physicien, qu'on emploie souvent pour parler de ces premiers penseurs, écrivains, du 6e et 5e siècle que l'on appelle présocratique et qui sont là donc les auteurs en jeu dans cette conception d'Havelock. Mais pourtant, à moins de définir l'un par l'autre, il n'y a absolument aucune obligation à ce que le poétique soit la seule forme capable, le poème soit la seule forme d'expression capable de perpétuer une transmission orale. La transmission orale dans cette représentation doit s'incarner dans une forme poétique. Or, bon, il y a toutes sortes d'astuces, d'effets rythmiques, phonétiques, sémantiques qui ne sont pas nécessairement poétiques, qui sont possibles ici comme ailleurs, comme dans n'importe quelle autre culture. Cette conception d'une forme poétique originelle donc, qui ferait que naturellement la science elle utilise le véhicule ordinaire à ce moment-là en tout cas de l'expression, à cette idée s'ajoute aussi l'idée philosophique et littéraire, elle est les deux, d'une transcendance de la vérité sous la double forme d'inspiration divine, côté plutôt littéraire, et de réalité profonde. La réalité profonde, elle est au-delà de cette réalité apparente. Et cette conception vient exploiter donc, la plus-value accordée au poétique en l'intégrant dans une idéologie que l'on peut qualifier d'élitaire ou d'aristocratique et qui fait que oui, bien, la poésie, comme forme distincte, distinguée du langage de tous les jours, va être le véhicule de reconnaissance de ceux qui, par là, ont accès à autre chose qu'à ce à quoi les autres ont accès. Alors, évidemment, les dieux parlent en vers, hein, presque toujours, ou même toujours, puisque on ne peut pas leur supposer une autre parole qu'une parole qui est élevée, puisqu'il y a une représentation très, très spatiale des relations entre la prose, hein, ce qui marche, et ce qui est en haut. On pense et on crée avec la tête, on marche avec le pezos logos, hein, avec les pieds, et évidemment, toutes les images par lesquelles sont représentées cette distinction entre un style, alors ce sont des images un peu plus tardives d'ailleurs, c'est plutôt au 5e siècle, hein, entre la poésie et la prose, comme ceux qui marchent ou ceux qui pensent, évidemment, accompagnent cette valorisation du poétique. Et évidemment, donc, la science n'est pas exceptée, hein, puisqu'elle a avec les dieux et avec la vérité une relation très, très particulière, elle en émane naturellement, eh bien, il est évident qu'elle va parler leur langue. Donc le poétique est perçu comme le régime commun de cette paléo-littérature et par là évidemment paré du prestige des origines. La façon dont les philosophes, c'est-à-dire les maîtres organisés du savoir, hein, du savoir graphique, hein, même si les parrains de ces philosophes sont souvent des adeptes farouches de l'échange oral vivant, restent ces maîtres organisant le savoir graphique. La façon dont les philosophes se racontent l'histoire du passage de la poésie à la prose est d'ailleurs assez intéressant. Les premiers savants écrivirent en vers, hein, puis la vérité exigea d'avoir ses aises, Et renonçant à ce prestige, à cette plus-value poétique, encore une fois, qui exprimait la transcendance de cette parole, eh bien, elle va choisir ses mots, ses formes linguistiques, sans contrainte, en choisissant donc la liberté par rapport à ce qui est devenu un obstacle. Voilà, schématiser l'histoire selon les philosophes de ce passage à la prose, passage qui est un peu perçu parfois comme obligé, est témoin de cette histoire très romancée, Plutarque. Plutarque qui, d'ailleurs, défend un peu la prose comme si elle en avait besoin dans une ambivalence par rapport à la prose qui est assez typique des platoniciens. Voilà ce qu'il dit dans un texte où il se pose la question de savoir pourquoi la pitié ne rend plus ses oracles en vers. Il y a là une dégradation du message, ou en tout cas une dégradation du style, hein, qui mérite d'être l'objet d'une question philosophique, et c'est ce qu'il fait. Et il s'adresse à un de ses... Il s'agit donc d'une discussion avec évidemment plusieurs interlocuteurs. « Tu as raison, dis-je, excellent Sérapion, car nous ne désespérons pas non plus de la philosophie comme si elle se trouvait entièrement détruite et ruinée parce que les philosophes ont tout d'abord produit en poèmes leur doctrine et leur raisonnement, comme Orphée, Hésiode, Parménide, Xénophane, Empédocle et Thalès, et ont cessé ensuite d'utiliser des vers, ce qui est toujours le cas, toi excepté. » Sérapion, lui, est encore un philosophe qui pratique la versification, qui écrit en vers. C'est par ton intermédiaire que la poésie revient à la philosophie, encourageant les jeunes gens à la droiture et la noblesse d'âme. L'astronomie non plus, Aristarque, Timocharis, Aristilos, Aristile, Hipparque et leurs disciples, auteurs en prose, n'ont pas contribué à la déprécier en écrivant en prose, quand auparavant, Eudoxe, Hésiode et Thalès écrivaient en vers. S'il est bien vrai que Thalès est l'auteur de l'astronomie qui lui est attribuée. Alors, au passage, cette liste est tout à fait discutable. Des trois auteurs signalés comme des auteurs de poèmes astronomiques, il n'y en a qu'un qui est valable. Ni Eudoxe ni Thalès n'ont écrit en vers. Et ces infractions à la réalité historique sont d'ailleurs des témoignages qu'on est là dans une construction très, très idéologique, une représentation très ciblée, pour montrer comment ça s'inscrit dans une histoire de l'évolution de la poésie à la prose, et que finalement, on n'y a pas tout perdu malgré tout, la philosophie reste philosophique en ayant renoncé au vers, et la poésie et l'astronomie reste astronomie, même si elle a renoncé au vers, qui était sa langue d'origine, sa langue maternelle. Alors, dans la perception philosophique, il faut bien voir ce passage à la prose, hein, conséquence d'une acclimatation graphique et aussi du fait que cela permet évidemment certains avantages, dont on pourra parler. Cela n'a rien à voir avec une démocratisation de la connaissance. Hein, c'est vraiment perçu comme un affranchissement de contraintes formelles. Et d'ailleurs, la forme littéraire est très importante dans la conception que les philosophes se font de leur travail et de leur discours et de l'histoire de leur discipline. Le mythe de la prosification du monde et de la philosophie passant à l'âge adulte en assumant par le recours libérateur à la parole prosaïque, hein, qu'on voit par exemple chez Platon ou pour Platon, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la littérature postérieure. Comme si, le passage à la prose était l'avènement de la pensée rationnelle. Et c'est tout un mouvement qui vient en quelque sorte contredire, mais peut-être en faisant de nécessité vertu, le passage, le renoncement à un maître qui assure une certaine efficacité de la parole qu'il faut chercher ailleurs ensuite. Alors, des gens comme Havelock, par exemple, sont persuadés que les premiers philosophes faisaient des vers, hein, que Thalès, etc. Or, si on se penche un petit peu sur les textes, on s'aperçoit que rien ne dit que les Milésiens, les premiers philosophes physiciens, faisaient des vers. Anaximandre, Anaximène, Thalès, Héraclite, etc., n'écrivaient sans doute pas en vers. Et ce sont les versificateurs, les poètes philosophes ou philosophes poètes qui paraissent être finalement plus l'exception. Parménide fut dit Burnet dans son Histoire de la philosophie, c'est un auteur assez ancien, Parménide fut en fait le premier philosophe qui exposa son système en langage métrique. Les philosophes aiment bien se raconter des histoires, et cette histoire romancée de leur émergence et de libération, la sortie non pas d'Égypte mais de la poésie, fait partie de leur mythe personnel. Cette déchéance libératrice affecte aussi le discours prophétique. L'appétit, progressivement, se met elle aussi à la prose. Et les deux mutations sont liées par Plutarque, hein, dans ce traité auquel je faisais référence, où il dit, c'est un passage très intéressant, parce qu'il y a aussi dans ce passage une comparaison du langage avec la monnaie, qui a une certaine valeur dans les représentations modernes. Non pas la monnaie, mais cette comparaison, ou cette analogie. Néanmoins, si l'on considère le point de vue du Dieu et de la Providence, nous verrons que le changement s'est opéré pour le mieux. Voilà, on a de nombreuses raisons de considérer que c'est dommage que l'appétit ne s'exprime plus en vers, mais en fait, c'est pour notre bien, c'est parce qu'on ne les comprend plus, et puis parce qu'il y avait trop d'ambiguïté. Voilà ce qu'il va dire, plus ou moins. Car l'usage du langage ressemble à la circulation d'une monnaie dans une transaction financière. Pour lui aussi, la valeur de référence, c'est celle qui est habituelle et familière, bien qu'il prenne une force différente selon les périodes. Il y a eu un temps où, comme monnaie du langage, on usait des vers, des mélodies et des chants, attirant vers la poésie et vers la musique tout récit historique et toute philosophie, mais aussi, pour parler simplement, toute affection et toute affaire qui avait besoin d'une voix un peu solennelle. Le langage connaissant en même temps le même changement et le même dépouillement, l'histoire descendit des vers comme de chars, et c'est surtout en recourant au langage pédestre, à la prose, donc le pezos logos, que la vérité se sépara du fabuleux. Et la philosophie, s'attachant plus à la clarté et à l'enseignement qu'à ce qui frappe d'admiration, en venait à ne plus mener sa recherche que par le biais d'arguments en prose. Le dieu fit alors en sorte que l'appétit cessa d'appeler ses concitoyens brûleurs de feu, les spartiates dévoreurs de serpents, les hommes habitants des montagnes et les fleuves buveurs de vapeurs de montagne. En enlevant aux oracles les vers, les mots rares, les périphrases et l'obscurité, il les mit à même de parler aux consultants comme les lois s'adressent aux cités, comme les rois s'entretiennent avec leur peuple, comme les disciples écoutent leur maître, cherchant l'accord avec ce qui est compréhensible et plausible. Voilà, donc c'est toute une mutation intellectuelle que Plutarque feint de voir derrière cet abandon de la poésie. Fin de voir parce que coexiste à son époque, et cela remonte à la période hellénistique, en fait une tension entre une valorisation de la parole poétique de toute l'efficacité et de ce rapport encore non perdu à la vérité qui ne peut être en quelque sorte qu'appréhendée par des voies indirectes que le langage pédestre ne permet pas. Hein, c'est ce qui oblige très souvent les philosophes à ajouter une dimension mystique ou métaphorique ou mythologique, hein, à leur discours, hein, un peu comme lorsque Platon dit que parfois le logos, l'exposé argumentatif, ne permet pas d'exprimer convenablement ce qui doit être exprimé et qui est objet de la philosophie, et qu'à ce moment-là, eh bien, on recourt à un détour qui est un petit peu ambigu, hein, mais qui est le détour du mythe. Donc, si je dis qu'il feint de voir, c'est à cause de cette tension qui existe pendant la période hellénistique et romaine, et qui est une tension très durable. D'ailleurs, ce changement progressif, si on relit un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, des poètes, c'est un choix plutôt de forme qui, à toutes les époques, s'est posé. Hein. Certains auteurs vont choisir la prose, d'autres vont choisir la poésie. Et le caractère poétique, eh bien, il est possible de le retrouver évidemment dans le dispositif littéraire adopté par Platon. Aristote lui-même, selon Diogène Laërce, le doxographe, remarque que la manière d'écrire de Platon est quelque chose du poème et de la prose. Il y aurait donc une sorte d'hybridation, de passage, de transition entre la prose et le poème. Et donc le rapport à la vérité, le rapport de la vérité au poétique n'est peut-être pas aussi crucial que ce que l'on veut croire. Et cette migration du langage du mutos au logos, d'une parole métrique et poétique à une parole prosaïque, est très vraisemblablement quelque chose de carrément surévalué. Alors, avatar de ce mythe est dans le prolongement, non pas sur de la langue des origines, mais comme médium choisi du savoir dans une culture écrite, lorsque la prose s'est offerte comme une alternative à l'expression de tous les savoirs, voilà l'exemple. Alors, je ne ferai pas un panorama de la littérature poétique, scientifique grecque. Je vais prendre quelques exemples clés, et celui que je vais prendre maintenant pour voir cette poésie scientifique dans sa réception et sa construction, c'est l'exemple d'Aratos, dont je parlais tout à l'heure, auteur d'un poème en plus de 1000 vers, en hexamètre dactylique, le maître d'Homère, donc, qui traite des phénomènes célestes, décrit la voûte céleste, décrit les mouvements, les levées des astres, et des prédictions météorologiques fondées sur des pronostics fondés sur l'observation de certains faits naturels ou animaux qui se donnent à voir. Alors, c'est extrêmement important parce que le texte d'Aratos, le poème homérique d'Aratos, alors il se réclame moins d'Homère que d'Hésiode, mais Hésiode est aussi un poète hexamétrique. Le texte d'Aratos est le principal monument d'astronomie antique. Alors, principal monument, je vais peut-être en foquer certains, parce qu'il y a des auteurs, des astronomes extrêmement importants, comme Hipparque, comme Ptolémée, les deux principaux astronomes scientifiques de choc, écrivant en prose. Mais du point de vue de la densité culturelle, de la diffusion, de l'importance culturelle jusqu'au Moyen-Âge, Aratos joue un rôle absolument exceptionnel. Et l'histoire du texte d'Aratos, avec ses commentaires, avec ses ajouts, parce que certains, par exemple, dans la période byzantine, vont récupérer le texte d'Aratos, vont noter qu'il y a quelques erreurs, et plutôt que de réécrire un traité, eh bien, vont réécrire en vers, modifier en vers quelques vers d'Aratos pour conserver cette espèce de monument parfait de l'astronomie ancienne. Donc l'histoire du texte d'Aratos et de ses commentaires se confond, pour ainsi dire, avec l'histoire de l'astronomie antique. Le texte d'Hipparque que nous avons conservé, c'est un texte d'un commentaire d'Aratos. Hipparque, lui, donc scientifique élevé au calcul d'astrothésie, de position d'étoiles, qui va élaborer un catalogue de positions absolument fabuleux, qui va découvrir certaines lois, la précession des équinoxes, etc. Donc quelqu'un qui est un savant mathématicien, hein, d'ailleurs mathématicien ça veut un peu dire astronome à l'époque, mais qui est un savant dur comme on les imagine dans notre présent. Eh bien, fonde, en fait, profite du texte d'Aratos, greffe un discours astronomique sur le texte d'Aratos qu'il commente. Et dans ce commentaire, il va en fait traiter à la fois d'Eudoxe et d'Aratos. Son texte s'appelle « Commentaire au phénomène d'Eudoxe et d'Aratos ». Même titre pour deux auteurs, deux traités, l'un en prose et l'autre en poésie. Alors, Aratos, j'y reviendrai un peu par la suite, est le pédagogue grec en matière d'astronomie jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et les critiques d'Hipparque vont venir valoriser autant que relativiser la portée de ce texte, vont entraîner une tradition de commentaires, et Hipparque, traitant d'Aratos, ne lui reproche jamais d'être poète. Jamais les erreurs qu'il va constater, qu'il va pointer, ne vont être mises ne vont être imputés au choix métrique. À chaque fois, c'est mal vu ou pas assez connaisseur, mais jamais c'est la poésie la contraint à faire des choix qui, ou c'est parce qu'il est poète qu'il ne peut pas toucher à la vérité. Donc c'est un indice extrêmement fort hein, de la réception, et j'y reviendrai, qui est faite de ces textes poétiques. Est-ce qu'ils sont traités comme les autres ? Alors, ce qui est important pour ce texte d'Aratos, qui devient véritablement le texte, le foyer central de la réflexion astronomique, c'est que les savants, qui est-ce qui mérite plus qu'un autre le nom de savant à cette période alexandrine, là je suis passé de la période présocratique à la période alexandrine, mais qui est un moment de grande production littéraire de poèmes de type scientifique, justement, eh bien, quel est le savant ? Le savant, c'est le grammairien. Le savant, c'est le philologos, celui qui aime et qui s'attache au texte, qui s'attache à les commenter. Et c'est quelqu'un qui ne perd jamais de vue hein, la dimension littéraire de l'œuvre à laquelle il a affaire. Et cette dimension littéraire, c'est ce que précisément on s'évertue, nous, vertueusement, d'oublier lorsqu'il s'agit d'autre chose que de ce qu'on appelle la littérature. Le savoir des philologues, à l'époque alexandrine, c'est une sorte de métasavoir englobant qui permet de traiter de toutes choses et qui impose une perception fondamentalement littéraire de tout ce qui est produit. La science, c'est aussi de la littérature, évidemment, et les philologues, les alexandrins, sont là sans cesse pour le dire. Le rôle que s'attribue parfois l'histoire dans la modernité, hein, comme critique culturelle, comme critique globale, capable de parler de tout et d'être un observatoire pour toutes les productions intellectuelles, eh bien, c'est la philologie qu'il a dans ce contexte alexandrin. Ces valeurs sont donc partagées par tous, et lorsqu'un auteur entend produire un texte, qu'il soit scientifique ou non, qu'il se veuille scientifique ou non, il est éminemment attaché au choix d'une forme littéraire et aux implications de cette forme littéraire. Ce qui rend généralement et fondamentalement inadéquat notre jugement sur une bonne partie de la production scientifique grecque, c'est que cette production a toujours un double objet qui est à la fois qui est littéraire et scientifique, alors que ces deux aspects, ces deux valeurs sont pour nous, depuis l'époque positiviste dont on ne s'est pas tout à fait remis, malgré les apparences, totalement divergents et ne peuvent être conciliables. Et donc, on a une perspective qui, d'emblée, est disposée à considérer qu'il va y avoir friction entre deux directions, celle d'une excellence poétique et celle d'une excellence de type scientifique. Donc la poésie n'est pas responsable des erreurs scientifiques, dit Hipparque dans un passage que je passe, qui est au début de son traité sur le commentaire d'Hipparque et d'Aratos. Certains auteurs modernes qui se sont penchés sur ce texte vont même jusqu'à dire que dans cette confrontation où on dispose du texte d'Aratos et du texte de Dox, parce qu'Aratos va chercher à montrer que Aratos a copié Eudox, il a mis en vers Eudox. Martin, qui est l'éditeur de ce texte, le commentateur de ce texte, dit qu'Aratos est souvent plus précis et plus véridique que le prosateur astronome Eudox. Autrement dit, une étude fine, mais une étude aussi littéraire, à la fois informée du point de vue astronomique, mais littéraire, du texte. Il y a passé 50 ans de sa vie, donc c'est un homme qu'on peut croire sur parole, même s'il y a parfois certains excès, et que Aratos est parfois plus précis que Eudox. Un passage d'une vie d'Aratos dit « Homère n'est attaqué que par une seule espèce de manieur de stylet, celle des scribes, mais Aratos en a deux contre lui, celle des scribes et celle des dessinateurs, qui représentent la sphère qu'il décrit, dont les erreurs sont transformées par les esprits légers en accusations contre les idées du poète, parce qu'ils ignorent à la fois la suite générale du texte et la réalité même des faits. » Dans le texte d'Hipparque, donc qui reprend Aratos, Eudox, et qui essaye de montrer les erreurs, de corriger les erreurs de ces deux textes fondamentaux, dont il sait qu'ils sont la base de la culture et de la transmission aussi pédagogique de cette discipline, apparaissent des figures de mathématiciens qui tous valident le texte, c'est-à-dire des mathématiciens qui vont, pour la plupart, il y en a un en particulier, Attalos, qui est souvent cité par Hipparque, vont dire « oui, il a raison », et qui vont expliquer le texte d'Aratos en prouvant, là où Hipparque lui va dire « non, c'est pas tout à fait ça », vont tâcher de faire coïncider la réalité avec le poème d'Aratos. Il y a donc une tradition mathématique, je parle d'Attalos qui est un mathématicien, qui est un astronome, et une tradition philologique qui s'allie pour valoriser et justifier et valider le poème d'Aratos. Alors, j'ai pris cet exemple d'Aratos qui est assez exceptionnel. Toutes les disciplines ne sont pas concernées dans cette production de poèmes scientifiques de l'époque alexandrine et plus tard, parce que ça se prolonge jusque très tard dans l'Antiquité, que ce soit dans le monde latin ou dans le monde grec. Il y a certaines disciplines qui sont favorisées et qui sont le lieu d'une production poétique extrêmement abondante. Ces disciplines sont essentiellement la géographie, l'astronomie, l'agriculture et la médecine. Il y a énormément de traités médicaux, iologiques, sur les poisons ou thérapeutiques, qui sont écrits en vers. Une production considérable. Alors, une littérature surtout technique, d'ailleurs, beaucoup technique, par exemple, sur l'agriculture, beaucoup de poèmes, sur la chasse, sur la pêche. Et dans, cet ensemble ne figurent pas des disciplines qui, vraisemblablement et évidemment, s'y prêtent moins, comme la géométrie ou la mécanique. On aura l'occasion de comprendre, enfin de voir un petit peu quelques éléments qui expliquent cette absence de ces disciplines dans le champ de la production poétique scientifique. Alors, cette production extrêmement importante semble permettre et semble valoriser par le fait qu'elle a une fonction hypomnématique. Elle permet de mieux mémoriser. Et sur cette fonction, beaucoup de choses ont été dites. La poésie permet de mémoriser, c'est son rôle. Plutarque le disait déjà, hein, toujours dans le traité sur pourquoi la Pythie ne rend plus ses oracles en vers, il écrit « En outre, le plus grand service que l'art poétique rend de langage, c'est le fait qu'on mémorise et retient mieux ce qui est exprimé lorsqu'il est pris dans les liens et le réseau d'un schéma métrique. » Voilà une idée courante et largement partagée et qui font du style et du maître non pas un handicap, comme on serait tout prêt à le croire d'emblée, mais au contraire un bonus dans le champ littéraire, une plus-value d'efficacité dans le domaine littéraire, surtout de la transmission et de la pédagogie. Et c'est pourquoi très souvent, cette littérature a été majoritairement perçu selon un biais didactique. On a voulu considérer que c'était essentiellement didactique. Lorsqu'on lit les travaux et les jours d'Hésiode, par exemple, qui est le texte un peu racine de cette production scientifique, qui s'attache à donner un certain nombre de conseils et de descriptions relatives au monde agricole, des travaux des champs, etc., eh bien, on s'aperçoit que le contenu positif est suffisamment faible pour que ça laisse espérer que les premiers laboureurs venus étaient en mesure de savoir ça aussi bien que lui. Hein, quelques repères extrêmement pauvres. Alors, c'est précieux, et en même temps, on ne peut pas penser que l'objectif premier était une transmission didactique. Alors, par la suite, il peut y avoir, et scolairement, c'est évidemment très efficace, mais parce que ça rentre dans une priorité donnée à la poésie des écoles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend, par quoi on apprend, par les poètes. Donc, la poésie permet aussi d'introduire l'astronomie dans les savoirs, et Aratos a joué un rôle très important dans la place scolaire de l'astronomie, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Aratos, vraisemblablement l'astronomie, on aurait considéré que c'était pas une science très, très importante. Par la suite, je ne parle pas à l'époque classique, mais dans la suite, et en particulier au Moyen-Âge, si on a conservé dans l'arbre des savoirs importants, hein, dans le quadriwium, ce pôle astronomique, c'est en grande partie, très certainement, hein, c'est une conclusion de Martin, en raison d'Aratos. Donc certes, il y a la fonction hypomnématique, il y a un usage possible qui est un usage didactique, mais il y a des services poétiques extrêmement nombreux que la poésie peut rendre. Elle peut exprimer quantité de choses. Elle peut, par exemple, permettre de mémoriser des définitions. Hein, ça peut être très pratique. Il y a un texte de Priscien de Césarée, un auteur du 5e, 6e siècle, qui s'appelle « De ponderibus et mensuris », des poids et mesures, dans lequel il définit, alors je ne vous le dis pas en vers, hein, je vous le dis pas en latin, je veux dire, et pas en vers non plus, je le traduis, mais l'obole est le double de la demi-obole, le double de l'obole se nomme un gramme, nos ancêtres disaient un scrupule. Voilà, c'est un distique, hein, un distique rythmé, donc un distique voilà, qui reste dans la tête. Une définition en vers, ça passe bien. Un catalogue, c'est parfait pour les catalogues aussi, la poésie. Donc c'est un aspect du discours scientifique qui peut être mis en valeur et bien servi par la poésie. Je cite cette fois un passage du Carmen de Medicina de Marcellus Empiricus, du 4e siècle après Jésus-Christ, où il dit... C'est une liste de produits. Vous connaîtrez aussi les vertus des substances aromatiques qui nous viennent du levant ou que les juifs enferment dans leurs boîtes, d'où s'exhale une odeur suave, telle que l'encens, le cos, le folium, la myrrhe, le styrac, le marc de safran, la spalate, les lébores blancs et les lébores noirs, le bitume, le nard, la cannelle, les amomes, le rare cinnamone, le baume, etc., etc. Alors c'est une succession de mots, mais qui ont leur place, qui sont conditionnés un petit peu par le schéma métrique et donc qui sont mémorisés plus facilement. Description, il y a beaucoup de descriptions aussi scientifiques. Alors là, on a aussi des exemples nombreux de descriptions. En géographie, on a beaucoup de poèmes parce que, justement, il y a un rythme, il y a un schéma qui permet une mémorisation rapide quand on s'entraîne. Évidemment, il faut que ce soit adossée à une pratique de la mémorisation, une pratique scolaire, une pratique culturelle de la mémorisation orale, évidemment, hein, sinon ça ne marche pas. Enveloppé dans un flocon de laine, dit Quintus Serenus Sammonicus, hein, célèbre auteur cette fois latin, enfin d'ailleurs les deux précédents l'étaient aussi, du IIIe siècle après Jésus-Christ, dans son De Medicina de plus de 1000 vers, enveloppé dans un flocon de laine et introduit dans le... c'est un remède contre la migraine, Hemicranio Medendo. Enveloppé dans un flocon de laine et introduit dans l'oreille opposée à celle où est le mal, l'ail ou le baume est un remède efficace contre cette douleur aiguë qui affecte une partie de la tête. On obtient aussi le même effet par des frictions faites avec 3 gousses d'ail et 3 grains de poivre broyés ensemble. Donc voilà, préparation, et une préparation qui s'inscrit métriquement très bien avec anaphore de alia, di versa, amalia ou alternis. Enfin, il y a toute une mélodie qui en permet facilement la mémorisation. Pour l'argumentation, est-ce que la poésie le cède à la prose pour l'argumentation ? Lisez Lucrèce et vous verrez que les igitur, les nam, les unde, les ergo, les quoniam, les deniquae, autrement dit toutes les articulations logiques sont pléthores. Il y en a parfois jusqu'à 18 en 30 vers des articulations comme ça qui montrent une démarche extrêmement rationnelle en train d'exposer des faits. Des semi-auxiliaires de mode, enfin il y a toute une étude stylistique que l'on peut faire et que l'on a faite sur Lucrèce, permettant de voir qu'il y a une solide, voire lourde armature logique qui n'est pas empêchée par le choix poétique. Même pour des cas difficiles, j'ai essayé de voir ce qu'on pourrait faire avec le diamètre terrestre, qui fait 12 756,32 pour le diamètre équatorial, et 12 713,55 km pour le diamètre polaire, donc légèrement inférieur. Alors, petit essai de 12-1 sur le sujet. Le diamètre de la Terre, alors en mélangeant, enfin en alternant des décasyllabes et des octosyllabes, le diamètre de la Terre, d'un pôle à l'autre et à l'envers, est de 12 713 km exact et complet, et 71 mètres moins 16 formant un anneau rondelet. Le diamètre équatorial de la Terre fait d'équerre en kilomètres précis, plus restreint que la ceinture polaire, 12 756, auquel manque, pour faire un tour, 32 mètres de pourtour. Donc même une équation aussi embarrassante que des fractions, des chiffres longs, etc., eh bien, rien n'empêche, si l'on s'en donne la peine, même si le résultat n'est pas fabuleusement intéressant, de le mettre en vers. Et pour d'autres procédés, la méiose, par exemple, avec sa phase équationnelle et sa phase réductionnelle, on a là des rimes toutes faites pour décrire la méiose un petit peu à la mode de l'auteur que je citais au début de cette communication. Alors, comment les Grecs traitaient-ils ces textes ? J'ai déjà un peu dit j'ai déjà un peu parlé de la réception d'Aratos, la réception du texte d'Aratos. Il n'y a aucune différence de traitement des auteurs concernant ces textes qui correspondent à un genre bien établi de poèmes scientifiques techniques. Il n'y a aucune différence de traitement de ces auteurs selon qu'ils sont prosateurs ou poètes. Galien, le médecin, qui écrit en prose, va utiliser aussi de façon exactement équivalente des auteurs poétiques et des auteurs prosaïques. Andromachos, par exemple, va être très très exploité par lui, qui est un auteur qui écrit en vers à l'époque romaine. Hein. Bon, il y a plusieurs Andromachos, je ne rentre pas dans les détails, mais l'important c'est de voir que lorsqu'on prend les textes et qu'on lit les mentions qui sont faites de ces auteurs poétiques, rien ne les distingue. Parfois, il y a des compliments sur le style, mais comme un bonus de l'information. Jamais il n'y a de critique qui viserait le choix poétique. Lorsqu'il y en a, eh bien, c'est à l'égalité des autres, c'est-à-dire qu'on peut être obscur en prose comme en poésie, et c'est surtout l'obscurité qui, dans ces textes, est visée. Mais il y a des passages, par exemple, de Nicandre qui sont extrêmement clairs, des passages d'Apollodore qui sont assez confus, un auteur médical poétique. Donc, le critère n'est pas celui du choix métrique. Idem donc entre Hipparque et Aratos. Et les traités médicaux, pour prendre un autre sujet, et pour là parler un petit peu plus par la suite de Nicandre, auteur de poèmes sur les remèdes, sur les médicaments, auteur des thériaques, hein, sur les maladies, sur les venins, les morsures, et Alexipharmaque, sur les remèdes apportés à ces poisons, à ces venins de reptiles. Eh bien, Nicandre, en écrivant son poème, procède comme n'importe quel médecin iologue, c'est-à-dire spécialiste des poisons, hein, ou pharmacologue, spécialiste des remèdes, avec les mêmes rubriques. Hein. Il commence par parler, lorsqu'il est dans la thérapeutique, des mélanges, de la sumétria, et ensuite des indications, comment les utiliser. Autrement dit, le schéma intellectuel pour présenter les données scientifiques sont identiques dans les deux types de textes. Empédocle et Démocrite sont, chez Aristote, l'un poète, l'autre prosateur, sont traités exactement de la même manière lorsqu'il s'agit de savoir quelle est leur interprétation de la reproduction des mammifères, par exemple. Il n'est pas fait allusion au handicap que constituerait le caractère métrique. Donc la constitution artificielle d'une tradition poétique dans lequel on fourre en quelque sorte ces auteurs qui n'ont pas plus à y faire là qu'ailleurs. Donc cette constitution artificielle d'une tradition poétique qui serait une filière à part par les modernes et qui toucherait au fond à la matière du savoir scientifique contribue à disqualifier ces œuvres qui, dans la tradition des critiques jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce qu'il y ait parfois, pas toujours, mais certaines personnes pour les valoriser aussi de ce point de vue-là, sans donc faire de cette double casquette, en quelque sorte, une superposition maladroite, eh bien, la constitution de cette tradition poétique dessert considérablement le lecteur, qui du coup n'y cherche plus que le poème. L'inspiration scientifique de Nicandre est exactement la même, est constituée par les mêmes sources littéraires que l'inspiration, par exemple, de Philouménos, hein, médecin du IIe siècle après Jésus-Christ, ou de Galien. Il n'y a pas de filière cloisonnée dont seraient exclus les poètes. La réception les reçoit à égalité sans les dévaloriser. Alors, si vous prenez par exemple un livre comme celui de Petit et Théodoridès sur l'histoire de la zoologie, un très beau livre d'ailleurs, eh bien, il y a un chapitre entier consacré à la zoologie et la poésie, comme si c'était une catégorie pertinente dans le contexte culturel de production de ses œuvres en Grèce. Et alors, c'est une curieuse famille où il y a Apulée, hein, pas pourquoi, Nicandre, Homère, Élien, Oppien, des auteurs qui n'ont pas du tout la même perspective, des auteurs qui traitent de choses complètement différentes, en particulier en ce qui concerne le rapport entre Nicandre et Oppien. Donc le critère métrique est totalement secondaire et il est injecté comme ça dans une représentation qui du coup est totalement déformée. L'option poétique n'a donc pas de conséquences plus profondes que celle qu'entraîne l'élection d'un certain style ou d'une certaine langue en ce qui concerne la dimension scientifique. Il y a d'ailleurs en prose des choix littéraires qui sont beaucoup plus dramatiques pour le contenu scientifique. Par exemple, le choix de l'abrégement peut être beaucoup plus dramatique que le choix poétique. Abréger un texte peut parvenir à en confondre totalement le contenu et les données bien davantage qu'un passage en poésie. Alors se développe aussi un certain genre littéraire qui s'appelle la paraphrase et qui se décline de plusieurs façons. La paraphrase, c'est la réécriture d'un texte, soit en le faisant passer de la prose au vers, soit en le faisant passer des vers à la prose, soit en le faisant passer d'une langue à l'autre. On parle de paraphrase aussi pour une traduction. Alors il y en a un grand nombre de ces paraphrases, or jamais dans le début de ces paraphrases, par exemple adaptation, paraphrase de Nicandre sur les remèdes, eh bien jamais, sauf une fois, dans toutes les paraphrases que j'ai consultées, il n'y a une critique des vers comme étant obscurs. C'est en fait un procédé de vulgarisation, de mise à jour, non pas des connaissances, mais du style. C'est parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend plus très bien à l'époque qu'au 4e, au 5e, au 6e siècle après Jésus-Christ, on va les faire passer en prose pour les rendre plus accessibles. Mais ce n'est pas du tout pour leur redonner un aspect plus scientifique. L'enjeu n'est pas du tout celui-là. Et jamais, donc, sauf une fois, il n'y a une critique de l'obscurité du texte et donc pas de justification de cette transposition paraphrastie. Donc c'est un reformatage qui est plutôt de l'ordre de la vulgarisation que de l'alignement sur un idéal scientifique. Alors, pourtant, ce n'est pas une évidence en Grèce pour tous que cette compatibilité de la forme poétique avec le contenu scientifique. Et il y a, il ne faut pas le cacher, évidemment, un débat assez fort parmi les auteurs, un débat alexandrin autour, mais alors qui tourne surtout autour de la question du mensonge, hein, le poète étant un menteur, ou de la disjonction. Une disjonction qui est assez fantasmatique entre enseigner et plaire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir son camp ? Les Grecs n'avaient pas forcément envie de le choisir. Entre dokéré et délectaré, pourquoi faudrait-il les concevoir comme antithétiques ? Mais parce que dans l'ensemble, je pense que c'est une fausse question. Et cela donne parfois des situations paradoxales où Ératosthène, qui est présenté comme un des auteurs les plus virulents contre le contenu scientifique, des poèmes, écrit lui-même un texte poétique, Hermès, hein, qui traite d'astronomie, et écrit lui-même un ouvrage qui s'appelle Les Catastérismes, où il mêle étroitement données de mythologie astrale et données d'astrothésie, c'est-à-dire de position d'étoiles. Autrement dit, la symbiose qu'il réalise dans sa conception, c'est à la fois un scientifique et un poète, hein, dans sa conception, dans sa production, etc., il semble la contester. Alors, Il faut dire à sa décharge peut-être qu'il s'agit d'un auteur précis qui est en cause, hein, et c'est Homère. Donc pour Homère, il y a cette opposition assez forte, mais il est vrai que certains considèrent à l'époque alexandrine que la poésie n'est pas le médium idéal pour la transmission scientifique, mais c'est pour des raisons qui sont plutôt littéraires, c'est-à-dire c'est dépassé, comme il pourrait critiquer aussi l'usage de l'hexamètre pour l'épopée, en disant faire des grandes épopées. Hein, donc c'est plutôt une question de mode ou d'évolution globale que le procès de la poésie scientifique. Alors, tout de même, hein, de ce léger malaise autour de la poésie scientifique, il y a un témoin qui est une question, la question de l'attribution des phénomènes, justement, et la question d'Aratos. Qui se décline en plusieurs temps. D'abord, dans les vies d'Aratos, on dit qu'Aratos ne connaissait strictement rien à l'astronomie, et qu'il était médecin, qu'il a écrit un poème médical et qu'il l'a échangé avec Nicandre, qui lui-même était astronome, a écrit un poème astronomique et qu'ils ont fait un échange. Alors, cette dissociation de la compétence et de la production littéraire est déjà l'indice qu'il y a dans l'alliance quelque chose qui gêne un petit peu. Mais cela, c'est véhiculé par les histoires sur la vie d'Aratos, qui sont des histoires assez tardives. Donc, il est dit dans une de ses vies, il écrivit les Thériaques, Aratos écrivit les Thériaques, les donna à Nicandre et reçut de lui en échange les phénomènes. C'est un scénario totalement abracadabrant. Deuxième étape de cette contestation d'Aratos, que l'on trouve d'ailleurs chez Cicéron, qui reprend sans doute cette histoire d'une confusion des auteurs avec leur œuvre, et qui dit dans le De Oratore, « Puisqu'il est en effet reconnu entre les savants qu'un homme ignorant de l'astronomie, Aratos, a dépeint en vers très brillants, très beaux, les mouvements du ciel et des astres, puisque sur les choses de la campagne, un homme étranger à l'agriculture, Nicandre, et là il parle des géorgiques de Nicandre, a écrit en poète, non pas en paysan, laissant une œuvre remarquable, pourquoi l'orateur ne pourrait-il pas parler éloquemment des matières de matière qu'une cause, une circonstance déterminée l'aurait obligé d'étudier. Le poète se rapproche beaucoup de l'orateur. » Alors là, dans la problématique de Cicéron, dans ce passage du De Oratore, on a plutôt l'impression qu'il s'agirait de transformer Aratos en rhapsode. Hein, ce serait un peu le rhapsode à la mode Ion, c'est-à-dire, il sait parler, donc il sait la chose. Et donc, une certaine façon de critiquer le savoir d'Aratos, puisque oui, il n'en a que le savoir parlé, que le savoir sophistique ou rhapsodique, dirait Platon. Donc, il y a dissociation presque au forceps de la compétence poétique et de la compétence scientifique, qui est plutôt l'expression d'un idéal qui est différent, mais qui n'est pas une contestation historique, puisque là, enfin, ce montage est complètement abracadabrant. D'ailleurs, Cicéron lui-même a imité Aratos. Enfin, il a écrit des Aratéas, il a transcrit en vers latin le poème d'Aratos. Donc, c'est peut-être une position qu'il faut relativiser aussi avec sa propre production littéraire. Troisième façon de le contester, et c'est aussi véhiculé par toute cette littérature des vies d'Aratos, Aratos aurait reçu une commande qui était tout simplement de transposer un texte en prose d'Eudoxe, astronome reconnu, ayant le savoir, et de le mettre en vers. Donc, il embellit, il versifie, il aurait versifié un texte écrit d'abord en prose, évidemment, langue de la science. Alors, la vie, d'ailleurs, prend des distances par rapport à cette... Enfin, le récit de la vie prend des distances par rapport à cette idée, et elle conclut en disant « Savoir transcrire, c'est déjà faire preuve de compétences astronomiques. Bon. » Mais au-delà de cette idée, eh bien, on se trouve donc devant une contestation là, du savoir d'Aratos, mais qui ne repose sur rien du tout, tellement rien que Martin, qui s'est penché sur le texte, a apporté des éléments pour considérer que, non seulement Hipparque et les autres ont tort de croire qu'Aratos a copié Eudoxe, mais que vraisemblablement, c'est Eudoxe qui aurait mis en prose et qui aurait écrit un ouvrage à la suite d'Aratos. Donc l'hypothèse de Martin, qui n'est pas en soi absurde, hein, est que la transposition s'est faite dans l'autre sens. Autrement dit, que c'est Aratos qui est le dépositaire premier et le premier à exprimer ce savoir astronomique qu'Eudoxe, dans un second temps, à réutiliser. Alors c'est exactement la même chose avec Nicandre. L'auteur spécialiste de Nicandre, qui a passé lui aussi 50 ans de sa vie sur Nicandre, et qui est Jean-Marie Jacques, professeur français, a montré que, contrairement à tout ce qu'on avait pensé, mais dans une logique qui est très forte, qui est que Nicandre aurait adapté en vers des textes, des traités d'Apollodore, un iologue antérieur ayant écrit en prose, et donc qu'il aurait mis en vers, voilà, on met en vers. Eh bien, contrairement à cette idée, c'est Apollodore qui aurait récupéré des informations qu'on trouve chez Nicandre, qui parfois est plus riche que lui. Autrement dit, il inverse totalement l'ordre de priorité, production d'abord poétique, puis paraphrase en prose, selon un procédé qui semble le procédé le plus courant dans l'histoire des paraphrases mettant en jeu des textes scientifiques. Allons plus loin. Si l'on suit Strabon, on s'approche d'une conception qui peut donner encore un relief plus important à cette littérature poétique, scientifique. D'abord, dit-il au début de sa géographie, montrons que c'est à bon droit qu'à l'imitation de nos prédécesseurs, d'Hipparque notamment, nous avons présenté Homère comme le fondateur même de la science géographique. Apparaît Homère, toujours incontournable pour ces questions, et le témoignage d'Hipparque qui va dans le sens de Strabon et dans lequel on voit apparaître un Homère, père arché getès de toutes les sciences, de tous les savoirs, et y compris du savoir géographique. Alors là, c'est tout un autre dossier, je ne vais pas le détailler, je n'ai absolument pas le temps, mais qui est l'histoire de l'herméneutique, de la tradition allégorique. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est quoi ? C'est que, étant donné le crédit immense dont jouit Homère, étant donné qu'il a donné lieu à toute une littérature secondaire extrêmement importante, eh bien, on arrive à le constituer comme le porteur de savoir considérable. Mais cela suppose une certaine attitude de lecture. C'est-à-dire, cela suppose que le sens se crée à deux et que Homère parfois dit les choses, alors c'est un double régime du verbe homérique, parfois il dit les choses rhétos, il dit les choses phrasei, etc., clairement, et parfois il les dit par allusion. Alors il fait allusion, il laisse entrevoir son savoir, et c'est celui qui lit qui doit comprendre à quel savoir cela fait référence, et que le caractère de l'océan circulaire, etc., tous les détails qu'il donne sur les Éthiopiens, etc., il prend des dossiers très concret dans son premier livre, Strabon, dans sa défense d'Homère, eh bien, tout cela, eh bien, il le laisse entrevoir et le savoir d'Homère devient un savoir partagé. C'est en raison de cette double lecture. Le phénomène de l'exégèse poétique et de la lecture allégorique fait que le texte poétique est un texte de savoir pourvu qu'il s'inscrive dans un certain dispositif de réception dans lequel le travail se fait à deux, à deux voix, celui qui parle et celui qui lit. S'il n'y a pas l'interprète, l'exégète, alors celui qui peut, par exemple, comme Porphyre, dans le domaine philosophique, considérer 11 vers de l'Odyssée et en faire un traité assez long, ou beaucoup d'autres auteurs, les allégories d'Homère, etc. C'est-à-dire qu'à partir d'indices textuels, on arrive à retrouver un savoir naturaliste qui est non seulement un savoir qui colle à la réalité, mais en plus un savoir que l'on réattribue à Homère, que l'on prête à Homère, et qui aurait été canalisé et en quelque sorte l'objet d'une mutation poétique délibérée, soit parce qu'il voulait la crypter, soit parce qu'il faut concilier deux choses qu'il arrive parfaitement à concilier, pourvu qu'on accepte de jouer ce jeu-là. Alors, je vais rapidement aller vers ma conclusion en signalant très brièvement deux, trois éléments que j'avais l'intention de développer un peu plus longuement, mais je vois que j'arrive pratiquement à une heure. Tout d'abord, on peut accepter cette écoute poétique et cette interprétation, cette oreille exégète qui fait que le texte poétique devient ou est savant pourvu que je le veuille bien, ou on peut accepter tous les exemples de témoignages de production scientifique reconnus comme tels sans que leur caractère poétique ne nuise. Néanmoins, on a plus ou moins le sentiment, je crois que la raison, par définition presque, est prosaïque. Elle doit se faire un peu violence pour se versifier. Dans toutes ces reconstitutions historiques où d'abord on écrit en prose et puis après on met en vers, il y a une sorte d'embellissement qui donnerait une forme artificielle, comme dirait Hegel dans l'esthétique, où il considère que la poésie scientifique, ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est une forme tout à fait artificielle, etc. Eh bien, non. C'est-à-dire que où sont ces contraintes, vraiment ? Où sont ces contraintes de la poésie par rapport à la prose ? Quand on y regarde de près, il y a quelques contraintes formelles, mais le vers, on le tord comme on veut. On peut choisir en octo, en déca, en alexandrin. Les Grecs ont plein de vers. Les médecins, ils peuvent utiliser le trimètre, l'hexamètre. Ils ne s'en sont pas privés. Ils ont utilisé plein de formes métriques différentes. En plus, à chaque schéma métrique, il y a des substitutions possibles, des longues qui peuvent devenir brèves, etc. Donc il y a une souplesse énorme. Non seulement il y a une souplesse, mais on peut créer des mots. Et au contraire, c'est un foyer de création qui permet de réaliser, soit d'exprimer de nouvelles idées, soit... Donc il y a une inventivité qui est en quelque sorte stimulée par cette forme poétique. Alors, quelle contrainte ? Les vers sont très souples. Il y a des expériences mixtes, par exemple Marcianus Capella, un poète tardif du 5e siècle, écrit toute une sorte d'encyclopédie du savoir, où il utilise un mélange de prose, de poésie. Donc c'est une formule extrêmement poétique, mais tout à fait nouvelle. Ce que dit Nicandre, traitant justement de la question scientifique en vers, Nicandre s'est forgé, dit Jean-Marie Jacques, pardon, c'est pas ce que dit Nicandre, c'est Jean-Marie Jacques, Nicandre s'est forgé un langage singulier, et lorsque son sujet le contraint d'accueillir des mots prosaïques, il les déforme souvent, soit par nécessité métrique, soit pour s'écarter de la prose. Grand chasseur de mots rares, peut-être le plus grand pourvoyeur d'apax de la littérature grecque. Là, il produit, il y a une sorte de fécondité, au contraire. Il prend un autre exemple où il montre que Nicandre, alors je le cite parce que ça sera plus clair, « J'ai montré ailleurs, dit-il, comment à propos du sidewinding, du mouvement du reptile, mode de locomotion que Nicandre oppose à la progression rectiligne de la vipère, lorsqu'il compare le céraste à un vaisseau de charge contrarié par le vent. Le navire déporté par les bourrasques figurant l'allure du serpent qui avance de biais, l'agitation des vagues, le mouvement ondulatoire de son corps, Nicandre, par cette ingénieuse comparaison, unique dans la littérature iologique des anciens, à la fois analyse et synthèse du mouvement latéral, avait retrouvé l'usage de la comparaison en tant que moyen d'investigation scientifique, jadis inauguré par Empédocle, lorsqu'il comparait le processus de la respiration au fonctionnement de la clepsydre. La comparaison avec, alors plus loin, il parle de la comparaison avec les jambes chancelantes des silènes lors de l'intoxication à l'aconite, Napel, qui exprime, dit-il, très adéquatement la faiblesse musculaire symptomatique de cette envenimation. Ici comme là, conclut-il après ces deux exemples, la poésie s'est faite véritablement l'auxiliaire de la science. Le caractère unique de ces modes d'explication et de ces visualisations pour la description de ces phénomènes est tout à fait remarquable. Alors, les limites, et là, j'en arrive à ma conclusion, les limites, eh bien, elles sont claires. Les limites, c'est le langage formel, un certain type de langage formel. Pourquoi les mathématiques, effectivement, est-ce qu'on peut, si l'on est dans un discours d'équation, de schéma, de formule, d'algorithme, cela, est-ce que cela peut passer en vers? Très difficilement. Mais est-ce que c'est de la prose? Non. Autrement dit, ce n'est pas là un conflit entre la poésie qui ne se prêterait pas à certaines réalisations de la prose. C'est qu'on est passé à un mode d'expression scientifique qui n'est pratiquement plus de la prose en certains cas. Je ne parle pas de certaines disciplines naturalistes qui continuent de s'exprimer en prose, mais évidemment, l'arithmétique, ce sont des signes, des schémas, des symboles, etc. Et tout cela n'est pas non plus de la prose. C'est un langage formel qui n'est pas, qui est une pratique et une évolution par une visée de plus en plus formalisante de ces disciplines abstraites vers un langage qui n'est pas... Autrement dit, ce n'est pas... c'est parce que... c'est entre autres parce que le discours scientifique est de moins en moins de la prose qu'on a de plus en plus de mal à se familiariser avec l'idée que la science pourrait être poétique. Et ce n'est pas parce que la prose aurait des qualités rationnelles qui manqueraient à la poésie. Alors, en toute conclusion, je citerai un passage de la poétique d'Aristote, au début de la poétique d'Aristote, où il dit la chose suivante. « Lorsque des auteurs proposent un ouvrage de médecine ou de sciences naturelles en vers, on a l'habitude de les appeler poètes. Mais il n'y a rien de commun entre Homère et Empédocle, mis à part la forme métrique. Et il serait juste d'appeler le premier poète et le second scientifique, plutôt que poète. » Alors, qu'est-ce à dire ? Empédocle a écrit en vers. Il n'est pas poète ? Ce que, alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. L'interprétation que je donne de ce passage, c'est que la poésie n'est pas la poésie conçue dans la théorie aristotélicienne comme mimesis, comme imitation, n'est pas la seule forme littéraire qui utilise les vers. Et donc que l'on peut être, que l'on peut écrire en vers, être un savant qui écrit en vers, sans être du côté de la poésie conçue comme mimésis. Autrement dit, c'est une exclusion du champ de la mimésis poésie des maîtres mimésis de la conception aristotélicienne, mais ce n'est pas du tout, au contraire, une exclusion de l'utilisation des vers pour parler de la poésie. Au contraire de certains savants du XIXe siècle qui avaient tendance à dévaloriser complètement Nicandre, eh bien, je cite juste un passage de Wellman à la fin du siècle dernier, pourtant très grand spécialiste et très savant. Nicandre, sans avoir jamais la moindre idée de la médecine, a composé des thériaques et des alexipharmaques où il a mis en vers, d'une façon on ne peut plus incompréhensible, venins et poisons, antidotes et recettes médicales. Si j'avais commencé par ça, évidemment, vous auriez été très prudent. Alors que Jacques dit « vérité scientifique et réussite poétique, celle-là, appuyée sur celle-ci, telle est la marque distinctive de beaucoup de passages des thériaques et des alexipharmaques. » Il a testé de la description, par exemple, des effets de la ciguë par Nicandre auprès de scientifiques et qui ont confirmé l'exactitude absolument parfaite de la description. Alors, on est loin de Socrate buvant la ciguë et tout tranquille. Elle est extraordinaire, donc je vous la cite. Il y a aussi la ciguë, c'est du Nicandre, alors évidemment en prose, mais... Reconnaît à ses signes sa nuisante boisson, car de fait, ce fameux breuvage frappe d'un coup mortel en apportant à la tête les ténèbres de la nuit, et ses victimes roulent des yeux. Leurs pas mal assurés, elles rampent par les rues, elles restent par les rues, pardon, en rampant sur leurs mains. Une cruelle suffocation obstrue le fond de leur gorge et l'étroit passage du pharynx. Les extrémités se refroidissent. À l'intérieur des membres, les veines, si fortes soient-elles, se contractent. Le malade n'a plus qu'un faible souffle trouvé, comme s'il défaillait, et son âme aperçoit Aidoneus, c'est-à-dire Hadès. Avec une progression, évidemment, une dynamique, une évolution des symptômes, et une donc, description symptomatologique absolument exceptionnelle. Nous avons... en quelque sorte, décharger le poétique de missions élémentaires, sociales, politiques, scientifiques, idéologiques. Nous avons restreint le poétique à être en quelque sorte le seul registre du témoignage d'une expérience imaginaire du monde. Hein, la poésie, c'est peut-être pour nous le prototype du texte littéraire soucieux de lui-même. Et cette conception de la poésie, c'est précisément ce qui fait obstacle à la possibilité de se familiariser avec la possibilité d'une poésie scientifique. Et cela passe aussi par une représentation scientifique qui est plutôt d'ailleurs le fait de fétichiste de la science que de scientifique, hein, qui conçoit le langage scientifique et l'objectif scientifique comme devant être une ascèse de tout ce qui est littéraire, comme étant ceux qui tournent le dos au littéraire, alors que les littéraires savent très bien, parfaitement, que lorsqu'ils écrivent un texte, lorsque c'est de la prose, eh bien, ils écrivent un texte littéraire, avec de la rhétorique, avec des images, des comparaisons, etc. etc. On est dans un fantasme que décrit parfaitement Barthes dans Le bruissement de la langue, qui est le fantasme de la transparence du langage pour les scientifiques, ou plutôt, je rectifierai ici, pour la pensée commune de la science, parce qu'il y a une idéalisation qui passe par des voies qui ne sont pas nécessaires. On peut être très admiratif de la science sans être dans la fétichisation du discours. Et c'est la fétichisation du discours, je crois, qui est le pire. Et voilà ce que dit Barthes, et donc ce sera absolument mon dernier mot. Le langage qui constitue la littérature et la science, l'une et l'autre, ne l'assume pas. Donc la science et la littérature ne l'assument pas, ou si l'on préfère, ne le professent pas de la même façon. Pour la science, le langage n'est qu'un instrument que l'on a intérêt à rendre aussi transparent, aussi neutre que possible, assujetti à la matière scientifique, opération, hypothèse, résultat, qui, dit-on, existe en dehors de lui et le précède. Il y a d'un côté, et d'abord, les contenus d'un message scientifique, qui sont tout, d'un autre côté, et ensuite, la forme verbale chargée d'exprimer ces contenus, qui n'est rien. Ce fantasme-là, je crois que le passage et la lecture des textes scientifiques, poétiques, grecs permet de se vacciner un petit peu contre lui et contre tout ce que cela entraîne dans la représentation moderne et dans une sorte d'asservissement de la pensée à certaines conceptions de la science. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est ainsi que nous essaierons de faire de la culture scientifique. C'est une, justement, on vous avait parlé de savoir. Et donc je pensais à ça. Il est arrivé ici très étonnamment qu'un conférencier, pour la petite histoire, qui est un physicien spécialiste d'Einstein, commence sa conférence par citer Proust et finisse sa conférence par citer Proust. Donc là, les physiciens étaient complètement sidérés, n'est-ce pas, parce que ils attendaient autre chose. Mais je trouve que cette provocation était très intéressante, et j'aime beaucoup votre provocation aussi, si je puis dire, mais très savante, bien entendu, et très fondée. Donc, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ?
Je vais poser une question bête, certainement. Vous n'avez pas prononcé le mot de religion ? Parce qu'au départ, cette poésie, c'est de l'incantation, peut-être, non, ou pas ? Je ne suis pas spécialiste du tout, mais les pré-socratiques, quand ils s'expriment, tout le monde s'exprime ainsi. C'est un langage sacré, enfin, qui sort du sacré, mais qui, j'imagine que les mythes se disaient avec le rythme, avec la musique, éventuellement, etc. Donc, ils emploient ce vocabulaire-là. Et ça reste. Est-ce que ça, ce souvenir, parce que la pensée grecque se dégage du religieux, dit-on.
Dit-on. Mais alors, on dit beaucoup de choses. Les pré-socratiques, ça ne veut strictement rien dire.
Oui, oui, je sais bien.
Donc, difficile d'appliquer des schémas valables pour tous. Ça veut simplement dire qu'ils ont vécu après, avant Socrate,
oui,
et certains
oui,
d'ailleurs
oui.
après. Enfin, certains sont très tard. Mais c'est très disparate, en fait, les situations. Hein, si quelqu'un comme Empédocle, il y a une dimension religieuse
oui,
très forte
oui.
dans ces. Mais quelqu'un comme Démocrite.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Certains pré-socratiques ont des images puissantes oui. et d'ordre
mais qu'est-ce
presque.
Mais qu'est-ce que détermine la religion là-dedans ?
Oui.
Est-ce que ça détermine une certaine approche du discours naturaliste ? Je ne crois pas.
Oui.
Je ne crois pas. Il y a. Alors. Il y a chez certains styles ou certaines idées peut-être qui sont particulières à Empédocle et qui sont liées à certains fantasmes ou à l'association. Bon, il était dans une mouvance pythagoricienne, un peu, en quelque sorte. Mais je n'arrive pas à définir ce qu'il y aurait de déterminant ce qui aurait été déterminant dans la religion par rapport à leur production scientifique. Thalès, par exemple, j'ai du mal là. Alors, il ne reste que des petits morceaux en plus. On se nourrit de miettes. C'est très piégé. Alors, la religion, oui, dans la mesure où ce que j'ai dit concernant les dieux et l'idée d'une transcendance du logos. Après tout, c'est une religion qui est assez facile. Enfin, facile.
Oui, mais je voulais dire,
qui n'impose pas grand-chose.
Oui, au sens d'une espèce de liturgie et d'incantation au départ. Enfin, quelque chose qui fait que ce n'est pas le langage ordinaire. Est-ce qu'il y a un langage ordinaire?
Alors, le texte, le poème de... d'Empédocle s'appelle les catharmoi, les purifications. Bon, mais à part ça, vraiment, on ne sait pas quels sont les titres. Souvent, c'est au sujet de la nature, mais c'est peut-être un titre qui est donné bien plus tard. Donc, des témoignages anciens des titres de traités présocratiques, il y en a très peu. Certains sont très discutables. Vous voyez, cette astronomie de Thalès, c'est certainement pas de lui.
D'accord.
Non, j'ai... Mais là, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez frotté le terme religion à ce terme-là, mais j'avoue que ça ne m'évoque pas quelque chose de saillant, dimension religieuse.
Et lorsqu'on a des auteurs qui réutilisent la poésie, est-ce que ce n'est pas une mode et un côté archaïsant ou à certains moments par rapport à d'autres?
Archaïsant ou...
À l'époque romaine, par exemple.
Traditionnel.
Oui.
Quelle est la différence entre archaïsant et traditionnel?
Oui.
Parce que, oui, alors quand quelqu'un comme Apollonios de Rhodes va faire écrire une épopée dans laquelle il va mettre beaucoup d'homérisme, ça remonte très loin, etc. Oui, mais alors il surfe en quelque sorte sur le prestige de l'ancien. Oui, c'est de l'imitation d'Homère, mais tout ce qui est imitation d'Homère... au niveau éditorial, ça a beaucoup plus de chances de percer.
Oui, bien sûr.
Donc, archaïsme, la mode, c'est indémodable, Homère, donc on en profite, mais c'est...
Oui, parce que l'idée de progrès pour les Grecs, c'est pas quelque chose, c'est pas la même chose que pour nous.
Non, ça...
Ouais.
Certainement.
Si j'ai bien compris, les Grecs n'ont pas craint que la matière, ce que nous appellerions nous proprement scientifique, enfin, sans science dure, si on veut, soit en quelque sorte phagocytée et noyée dans une matière plus généralement philologique. La matière philologique, elle, valoriserait en quelque sorte cette matière proprement scientifique.
Enfin, c'est-à-dire que la matière philologique, c'est en quelque sorte le tout.
Hein, oui, c'est ça.
Donc la matière scientifique, elle doit passer par la langue de toute façon, donc elle n'a pas le choix. C'est pas tout à fait elle est susceptible d'une lecture un peu différente, c'est-à-dire elle est susceptible aussi d'être confrontée. C'est ce que dit dans le texte que je n'ai pas lu là d'Hipparque, il y a la qualité, la clarté de l'expression et puis la conformité aux phénomènes qui sont décrits lorsqu'on décrit des phénomènes. Donc là c'est encore une validation supplémentaire par rapport aux autres validations d'un texte, mais la base est exactement la même. Et c'est cette conception-là qui est très importante. Et je crois qu'on a perdu. C'est la science et la littérature.
Donc il y a une sorte de recyclage permanent d'une matière scientifique à travers le langage, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. Reformatage, recyclage, adaptation. Et il y a plein de façons de le faire. Des commentaires, des compilations, des extraits.
Ce qui suppose quand même une certaine polysémie, peut-être, non? C'est pas évident.
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On a la possibilité... Alors, comme il y a quelques contraintes métriques quand même, on essaye de s'arranger. Alors, comme on peut mettre les mots un peu n'importe où, un peu seulement, on peut faire caser tout, hein, comme dans un coffre où il y a plus ou moins de place, on arrive à mettre les mots. Là. Mais on peut aussi en inventer. On peut aussi trouver des trucs, très souvent. Alors, on rajoute, on double une consonne pour que ça fasse long alors que c'était bref, ou des choses comme ça. Donc il y a plein de manières de faire tenir tout ce qu'on veut dire dans un vers. Autrement dit, la contrainte formelle est quelque chose qui est très surévalué aussi. Et c'est un petit peu un épouvantail. C'est dire, oh là là, ça, c'est impossible de dire ce qu'on pense si on s'astreint au vers. Mais on s'astreint à d'autres choses quand on parle. On s'astreint à une cohérence qui est aussi très exigeante, même si on y fait moins, on y prend moins garde. Et cette exigence-là, si on l'a, eh bien, pourquoi pas l'incarner dans cette forme parmi d'autres, qui est la forme poétique, et que j'aurais pu d'ailleurs prendre, non pas au pied de la lettre, forme métrique stricte, mais bon, si vous prenez des vers blancs, hein, des versets ou des vers blancs, là, vous pouvez tout faire tenir. Hein, prenez, là, en dilatant le terme de poésie, on peut en ratisser encore plus large.
Quand le christianisme commence à faire ressentir son influence, bon, on arrive à, par exemple à Isidore de Séville, est-ce qu'il y a quelque chose qui change, ou est-ce qu'on est toujours dans une continuité essentielle, enfin? Est-ce qu'il y a un moment un peu un oubli de l'origine, ou est-ce que...
C'est un prophète très différent, Isidore. Oui, hein, oui. C'est pas du tout le même prophète. Par rapport aux paraphrases, on voit à l'époque, on voit à certaines époques, en particulier au IVe siècle, qu'il y a tout un travail de mise en vers de la Bible, en grec, pour permettre au texte biblique de rentrer plus facilement dans les écoles. Sachant que ce qui est la porte d'entrée, c'est le vers, on va transformer les textes de l'Ancien Testament en épopées hexamétriques. Donc là, c'est une transposition qui est stratégique, quoi. Non, Isidore, c'est tout autre chose. Bon, c'est pas de la poésie. Il parle de l'idée que. Ce qui est commun avec une partie de ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une conscience philologique extrêmement forte, puisque le mot, c'est la chose. Donc, les étymologies ou les origines, c'est les deux noms du titre de ça. Et bien voilà, on prend un mot et on va pouvoir développer tout son savoir à partir de ce mot. On dit le mot est la racine qui permet de développer tous les savoirs à partir du mot. Donc là, il y a une perspective philologique, une organisation lexicographique extrêmement forte, même si ce n'est pas alphabétique, c'est thématique, mais c'est... Alors évidemment, oui, c'est une conscience de la langue très, très forte, mais bon, il ne s'inscrit pas vraiment dans cette problématique de la poésie scientifique. C'est un collectionneur. Ouais. Lui aussi, hein, il fait une distinction dans le premier livre de Pline, qui est vraiment génial, parce qu'il est très moderne. Hein, il donne la table des matières de tout son programme, des 37 livres qui vont suivre. Et puis, il donne toutes ses sources. Il dit à chaque fois, on pille les autres, et puis on ne dit pas qu'on a pillé les autres. Moi, je vais vous dire... Mais alors, il distingue pas les poètes et les prosateurs. Hein, il distingue les latins et les étrangers. Et donc, ce sont ces deux catégories. Et là, tout pêle-mêle, voilà. Hein, il n'y a pas de raison de rappeler sans cesse qu'Empédocle est un poète et que Démocrite ne l'est pas. Et que ça change tout. Non, ça ne change rien. Enfin, dans les faits, si on a bien compris son texte, ça ne change rien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de mal à lire... Aristote, c'était Héraclite, qui écrivait en prose. Donc beaucoup plus, c'était beaucoup plus difficile à comprendre. Hein, il le dit souvent, c'est extrêmement difficile à comprendre. Alors que, bon, Empédocle, il n'a jamais l'impression de ne pas comprendre.
On va être obligé de s'arrêter là.
Oui, non, je n'ai pas de disposition.
Merci beaucoup, bonsoir.